France Inter, le 18-20.
Et maintenant, c'est votre émission Le Téléphone Sonne. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel. Le recrutement des volontaires pour ce service national universel était officiellement lancé aujourd'hui avec un site dédié qui permettra à des jeunes de participer à une première phase test au mois de juin. Cela concerne 13 départements pilotes et les jeunes âgés de 15 à 16 ans ayant achevé leur classe de 3e. Ils pourront postuler pendant un mois. Les préfets, les recteurs devront prendre des mesures pour assurer la diversité sociale de ces groupes de jeunes et offrir, disons, une photographie représentative des jeunes français. Entre 150 et 200 volontaires par département seront retenus. Et au total, donc, entre 2000 et 3000 volontaires participeront à la première phase de ce service national universel du 16 au 28 juin prochain en internat. Et puis après, ils vont réaliser une mission d'intérêt général auprès d'associations, de collectivités ou de corps en uniforme pendant 2 semaines entre juillet 2019 et juin 2020. Le gouvernement réfléchit à généraliser ce service national universel à l'ensemble des jeunes âgés de 16 ans, cela à l'horizon 2022-2023, soit bien plus tôt que l'échéance de 2026 qui avait initialement été évoquée. Vous voulez en savoir plus, connaître les détails de ce service, appelez-nous, écrivez-nous maintenant.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Le 01 45 24 7000, c'est le standard du téléphone sonne, franceinter.fr, le site de l'émission. Nos invités pour vous répondre, Geneviève Darrieussecq, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Et Michel Goya, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes militaire, ancien colonel et auteur du blog La Voix de l'Épée, un blog consacré aux problèmes de défense. Déjà des appels au standard. Jacques est avec nous, il est à Lyon. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Votre question, allez-y, vous êtes en direct sur l'antenne.
Eh bien, ma question est relativement simple. Je me demande si cette brillante idée de M. Macron n'est pas une ânerie, dans la mesure où je ne vois pas ce qu'un service universel d'un mois peut apporter sur quelque plan que ce soit. Et surtout, je me pose la question de combien va coûter cette idée extraordinaire et merveilleuse de vouloir rassembler des jeunes autour de 16 ans pendant un mois pour leur faire quoi ? Pour leur faire prendre conscience de quoi ? Pour ça me paraît une ânerie monumentale. Et ça n'est pas parce qu'une chose a fait partie des promesses de campagne de M. Macron qu'il faut s'obstiner à la maintenir.
Jacques, on a parfaitement compris votre appel, un véritable réquisitoire. Geneviève Darrieussecq, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, va vous répondre. Que dites-vous à Jacques qui trouve que cette idée est totalement saugrenue, sans intérêt ?
Ben que je ne partage pas son idée, que je pense qu'à l'heure d'une société particulièrement fragmentée, où les gens ne se côtoient plus, une société en strates, les strates qui souvent ne se rencontrent jamais, eh bien je crois que la jeunesse doit être au cœur de cette société et la jeunesse doit pouvoir se rencontrer, se connaître, travailler sur la cohésion nationale, travailler la notion d'engagement, mais les jeunes sont naturellement engagés. Et puis surtout, moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a eu des enquêtes auprès de la jeunesse, notamment au travers d'un site qui a été mis en place pour eux, où 50 000 jeunes ont répondu. 75% sont très intéressés par le service national universel et par ce qui peut y être développé. Les jeunes demandent du sens, un cadre, et sont, je crois, prêts à adhérer massivement à ce service national universel.
Le recrutement des volontaires a commencé aujourd'hui. Vous avez déjà un bilan ce soir à 19h28 ?
Absolument pas. Alors vous savez que nous sommes dans une phase de préfiguration. Ces volontaires pourront se déclarer, mais ce sont des volontaires qui font partie des départements, des 13 départements de préfiguration. Et donc, je n'ai pas pour l'instant, ça vient d'être lancé, je n'ai aucune donnée supplémentaire pour l'instant.
Michel Goya, je rappelle, ancien colonel, auteur du blog La Voix de l'Épée. Quel est votre commentaire après avoir entendu les critiques virulentes de Jacques, qui estime que ce service national universel n'a aucun intérêt? Alors, ça servira à rien, dit-il.
Ben, il y a deux remarques. La première, c'est que on va certainement évoquer à travers les questions le service national, l'ancien service militaire, etc. On n'est plus du tout dans ce cas-là. Le service national, c'est des citoyens adultes qui rendent un service à la nation de manière obligatoire, comme le service national ancien, ou de manière volontaire, comme le service civique ou les réservistes. Mais quand on réunit des jeunes, des mineurs dans un endroit pour leur apprendre quelque chose, c'est pas un service national, c'est pas un service à la nation, c'est de l'éducation. Donc là, on est en présence d'un projet éducatif. Ensuite, la question, c'était combien ça coûte. Les estimations, en dehors des investissements initiaux de plusieurs milliards, l'estimation, c'est entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an. Ce qui est colossal pour quelque chose dont le cœur du sujet, c'est un internat de 2 semaines. C'est quasiment 4 fois le budget du service civique. Ça équivaut à 500 000 contrats de service civique de 6 à 12 mois. Pour, encore une fois, essentiellement 2 semaines d'internat. Donc moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le rapport coût-efficacité de ce projet éducatif. Évitons de parler de service national, véritablement, ça c'est un faux terme.
Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on retrouve quand même ce qui faisait partie du bon vieux service militaire d'il y a très très longtemps? On disait, le service militaire, bien sûr, on apprend le maniement des armes, là il n'est pas question de cela, mais ça permettait effectivement à des couches sociales très différentes, des jeunes venus de nombreux milieux, de se retrouver, de se découvrir, de se connaître. Est-ce que ce n'est pas important aussi pour un pays que, des jeunes de tous les milieux puissent passer quelques moments ensemble et connaître la vie des autres?
Tout à fait. Alors, c'est déjà, on pourrait dire que c'est le cas normalement des collèges et des lycées où les jeunes se côtoient. Et ensuite, il faut quand même rappeler que lorsque le service militaire a été suspendu, personne ne l'a beaucoup défendu et qu'à cette époque, il était très largement devenu totalement inégalitaire et on était très loin de tout brassage social. Et personne ne l'avait défendu à l'époque.
On va aller au standard, c'est Lilou qui est avec nous. Lilou est à Langouet, c'est cela?
Oui.
On vous écoute, Lilou, vous êtes en direct.
Bonjour, donc j'aimerais savoir si pour ce service militaire, donc on ne connaît pas grand-chose pour l'instant, est-ce qu'il va y avoir un statut d'objecteur de conscience proposé, enfin non, l'équivalent d'un statut d'objecteur de conscience, car on n'est pas, enfin tout le monde n'a pas forcément envie de faire ce service qui peut s'apparenter à un service militaire et qui donc pour certaines personnes ça pourrait être quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quoi.
Geneviève Darrieussecq.
Écoutez, a priori, ce service interviendra après la classe de 3e, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, sera obligatoire pour tous, comme l'éducation nationale, comme l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera une obligation supplémentaire d'un mois par rapport à l'école, si je peux le dire ainsi. Je rappelle qu'aujourd'hui, il existe une journée qui s'appelle la journée défense citoyenneté, qui est obligatoire, qui rassemble 800 000 jeunes par an, qui est développée par le ministère des Armées et que 98% des jeunes font, tout simplement parce que, il faut avoir l'attestation aussi de cette journée défense citoyenneté pour pouvoir passer le permis de conduire, par exemple. Donc, je crois qu'il faut rendre ce service attractif et faire en sorte que les jeunes aient envie de le faire. Et par contre, ce n'est pas un... C'est un service à la nation, je suis désolée, très simplement parce que quand vous prévoyez de faire un gros travail sur la sécurité civile, par exemple, nous avons en permanence des catastrophes dans ce pays, des catastrophes climatiques, des gros accidents possibles, des attentats. Apprendre à un jeune à savoir se placer dans une crise, protéger les autres, participer à un poste de secours, je pense que c'est vraiment investir sur l'avenir et la résilience de notre pays et c'est vraiment rendre un service à la nation. Donc je crois véritablement que l'on est aussi dans le service à la nation, pas que dans un projet purement éducatif.
Lilou a utilisé le mot plusieurs fois « militaire ». Elle voyait dans ce service un aspect militaire. Est-ce que vous pouvez dire ce soir qu'il n'y a rien de militaire dans ce service national universel?
Il y aura dans ce service national universel un enseignement de défense, enfin un enseignement, un module défense, le module défense qui existe dans les journées défense citoyenneté, tout simplement parce que nous ne pouvons pas couper le lien entre la jeunesse et nos armées. et la défense du pays, et il faut que les jeunes citoyens...
Qu'est-ce qu'il y aura dans ce module ?
Eh bien, écoutez, une connaissance des armées, une connaissance de ce qu'est la défense du pays, ce que sont le besoin de nos armées, parce que je crois que les... Vous savez que dans les enquêtes qui ont été faites, les deux choses qui intéressent la jeunesse, c'est quand même incroyable, les deux thèmes demandés prioritairement par la jeunesse sont les thèmes de défense et de sécurité du pays et le thème de la transition écologique.
Une question qui revient très souvent sur le site de l'émission, l'uniforme sera-t-il obligatoire ? Madame Darrieussecq ?
Alors, ce ne sera pas un uniforme militaire classique, ce sera une tenue identique pour tous.
Quelle tenue ?
Bon, je ne sais pas.
C'est pas encore fixé, ça.
Mais vous savez que des jeunes dans des lycées sont en train de travailler, des lycées qui travaillent sur la mode et le design, sont en train de travailler sur des modèles de tenues. Mais c'est du niveau t-shirt, sweatshirt, enfin ce type de tenue, mais pas un uniforme bien sûr, mais enfin une tenue identique pour chaque jeune. Et avec un facteur intéressant, par exemple, ces tenues, ils les emporteront chez eux. Si un jour il y a un problème lourd de sécurité civile, eh bien, ils peuvent prendre leur tenue et se rendre sur un point de rendez-vous pour aller aider à résoudre la crise. Donc voilà, les tenues peuvent aussi avoir de l'intérêt et de l'importance pour la suite et pour être utile à la nation.
Là encore, je lis les questions sur le site de l'émission franceinter.fr. Faut-il être sportif pour se porter volontaire, Madame Darrieussecq, encore pour vous, réponse.
Non, pas forcément. Tous les niveaux sont acceptés, et puis même quelqu'un qui n'est pas sportif du tout. Et puis, ce service national universel sera accessible, à tous les porteurs de handicap et à toute la diversité des situations de la jeunesse. Ce qui me paraît important, c'est de faire ce que les armées promeuvent quand même beaucoup, c'est dans un groupe que la solidarité aide l'autre à pouvoir avancer et se transcender. Et c'est cet esprit de solidarité qui me semble important de cultiver.
Catherine de Morlaix nous a écrit une question pour Michel Goya. Je rappelle Michel Goya, un de nos invités. Il est ancien colonel, auteur du blog La Voix de l'Épée. Que pensent les militaires de ce nouveau service universel ?
Les militaires pensent que c'est effectivement un projet éducatif, c'est très bien, c'est un investissement. On voit pas très bien d'ailleurs dans le contenu de ces fameuses deux semaines ce qui ne pourrait pas être enseigné directement au lycée ou au collège. L'enseignement civique, ça existe déjà, il y a déjà un parcours citoyen. Donc tout ça, ça pourrait très bien être enseigné de la même façon en cours, de manière assez classique. Et surtout, les militaires se disent, écoutez, tout ça, c'est pas notre métier. Nous sommes globalement de bons éducateurs, mais ça, ça relève du ministère de l'Éducation. Un service militaire, ça relève des militaires, forcément. C'est pas notre job. Et accessoirement, le milliard et demi, il faut espérer qu'on n'a pas répondu à la question, mais on va le trouver où, au fait. Le milliard et demi qui sera le financement courant, sans compter les investissements initiaux. Ce milliard et demi, on va le prendre où ? Dans la poche des Français, au ministère de l'Éducation nationale, dans les services publics. Qui va-t-on ponctionner ? Qui va-t-on affaiblir comme service public pour financer ces deux semaines d'internat.
Eh bien, réponse immédiate de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
Alors, je vous rassure, il n'y aura pas d'investissements initiaux, puisque il y a beaucoup dans notre pays d'établissements qui permettent de l'hébergement de la jeunesse, ne serait-ce que les établissements scolaires, mais également beaucoup d'établissements de vacances. Enfin, nous avons recensé ce qui pouvait se faire en France et vraiment, il n'y a pas besoin de construire de casernes, bien sûr, il n'en est pas question.
Et le milliard et demi ?
La deuxième chose, alors, 1,5 milliard, nous n'en savons rien, 1 milliard non plus. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que pour les 3 000 jeunes, là, il y aura vraisemblablement à peu près 4 millions d'euros qui est envisagé. Et pour le reste, le président de la République s'était engagé à ce qu'il y ait un budget autonome pour ce service national universel et que de toute façon, le budget des armées ne participerait pas à ce service, au financement de ce service national universel. Ça a même été votée dans la loi de programmation militaire par les députés et par les sénateurs.
C'est vrai, mais il sera bien pris quelque part, ça.
Ce sera bien pris quelque part. Ce milliard.
Écoutez, il y a une volonté. C'est un sujet important. C'est un sujet de société. Et pour moi, ce n'est pas qu'une dépense. C'est aussi un investissement sur l'avenir. Et je pense qu'il y a des périodes où l'on peut envisager que l'investissement sur l'avenir, notamment dans la cohésion nationale et dans la jeunesse, qui est quand même la richesse de notre pays et qui fait aussi la richesse de nos armées quand même, nous avons besoin d'investir.
Nombreuses questions sur le site de l'émission à propos du permis de conduire que l'on pourrait passer durant ce service national universel ou au moins le code. Que va-t-il vraiment se passer, Madame Darrieussecq?
Dans un premier temps, je pense qu'il y aura une initiation au code avec des possibilités de pouvoir avoir accès à des sites qui permettent l'éducation au code et le soutien, le règlement par l'État de la première du premier passage du code, si vous voulez.
Parce que c'était un des grands aspects positifs.
Ce qui est un vrai soutien.
Du service militaire, moi je me souviens effectivement au service militaire, je l'ai fait il y a très longtemps, on pouvait passer son permis de conduire, même le permis poids lourd, on pouvait apprendre à conduire.
À 16 ans, on n'y arrivera pas.
Oui, mais vous étiez adulte.
Alors, ensuite, ce qui sera possible, c'est que ceux qui continueront dans un engagement volontaire après 18 ans, dans la troisième partie du service national universel, qu'il y ait à ce moment-là des facilités pour passer le permis de conduire. Ça, ce sont des choses qui sont en cours de discussion actuellement.
Donc pour l'instant, il y aura juste une initiation au code de la route.
À 16 ans, une initiation au code de la route et la possibilité de passer une prise en charge du code de la route, de premier passage du code de la route.
Prise en charge, c'est-à-dire ?
Bien, prise en charge par l'État.
Très bien, donc ça fait de l'argent non dépensé pour ces jeunes.
Ben, par exemple.
Très bien, mais c'est une façon de rendre attractif ce service national universel. Au standard, Franck est à Flamanville et écoute l'émission et souhaite participer à notre discussion. Bonsoir Franck.
Ouais, bonsoir à tous. Moi j'avais un problème dans l'intitulé, quoi. En fait je comprends pas bien service national universel. Je vois pas bien comment on peut accoler national et universel finalement, quel que soit le type de service. Alors je comprends. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui m'échappe entre les deux, quoi, en fait. Et quitte à parler de défense européenne ou de trucs comme ça, pourquoi on n'est pas cherché à aller un petit peu plus loin, quoi, dépasser les frontières, quoi. Et quelque chose de national et universel, pour moi, c'est quelque chose d'antinomique, en fait. Et je n'ai pas bien sur le fond l'intitulé
bon,
du.
On va essayer projet, de vous répondre, Franck, Madame Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Pourquoi ce titre, service national et universel? Qu'est-ce qu'il a d'universel?
Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tous les jeunes Français. Mais là où monsieur a tout à fait raison, c'est que moi, je pense qu'il faut arriver à s'investir avec les pays européens afin potentiellement, progressivement, de développer un vrai service européen. Et je crois que beaucoup de pays sont particulièrement intéressés par ce que nous mettons en œuvre et sont très attentifs à l'évolution. Et il faut que nous poursuivions les contacts avec ces pays européens. Ça pourra être un objectif dans les années futures.
Alors, question sur le site, une question qui revient très souvent. Si on refuse de faire ce service national universel, quelles sanctions ?
Moi, je ne suis pas en capacité de vous dire quelles seront les sanctions. Ce que je suis en capacité de vous dire, par exemple, c'est que si vous ne faites pas votre journée défense citoyenneté, vous ne pouvez pas passer votre permis de conduire et vous ne pouvez pas passer des examens. Donc c'est quand même très pénalisant. Et les mêmes facteurs pourront très certainement être déployés, qui sont plus des incitations que des pénalités lourdes. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse je n'ai pas une réponse précise et complète à cette question.
Michel Goya.
Oui, alors effectivement, un service n'est universel, c'est-à-dire obligatoire en réalité, et complet que s'il y a une possibilité de sanction si on ne le fait pas. Sinon, ça devient de fait un service volontaire. Maintenant, comme dans les faits, il s'agit de... Bah, c'est la même chose que si vous n'allez pas à l'école, quoi, hein, en réalité, puisqu'on est toujours dans le même cadre. Un cadre, vous n'allez pas au lycée, ben voilà, c'est la même chose. Vous ne vous rendez pas pendant les... comment on appelle ça les... La période d'hébergement collectif, c'est-à-dire l'internat, ben, c'est la même chose que si vous n'allez pas au lycée.
Patricia est à Vannes. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Nos invités vous écoutent.
Oui, voilà, je suis la maman d'un fils de 15 ans, donc on se sent forcément très concernés. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi vouloir faire pendant un mois ce qu'on est censé faire en fait à l'école ? Moi, mon fils, en ce moment, on est en plein dans la réforme du bac et le choix des spécialités. Et on voit que dans les écoles, il va y avoir de moins en moins de diversité. C'est-à-dire que les écoles vont avoir des élèves qui seront d'une certaine classe sociale suivant l'endroit où est l'école. Et on veut faire pendant un mois rencontrer ces enfants qui normalement devraient se rencontrer à l'école. Voilà, pour moi, ce projet de un mois, c'est un cache-sexe pour nous dire les enfants ne se rencontrent pas autrement, et ben on va les faire se rencontrer à ce moment-là.
Geneviève Darrieussecq.
C'est une raison, madame, mais je n'appellerai pas ça un cache-sexe. Je pense que c'est une très bonne raison. C'est vrai qu'il y a des jeunes urbains qui ne rencontrent jamais des jeunes ruraux. Dans une ville, il y a des jeunes de certains quartiers qui ne rencontrent jamais des jeunes d'autres quartiers. Et il y a des jeunes dans certains niveaux de la société qui ne rencontrent jamais des jeunes dans d'autres niveaux de la société. Et notre société est très fragmentée et vit un peu en tuyau d'orgue. Donc l'idée de faire en sorte que ces jeunes se rencontrent me paraît être une bonne idée, et de faire en sorte qu'ils puissent vraiment créer des liens de cohésion entre eux et se connaître les problèmes les uns des autres. Je pense que l'on a une vision très différente du monde et de la société que l'on a autour de soi quand on connaît les situations. Voilà, c'est un des enjeux de ce service national universel, mais ce n'est pas le seul. Et l'école ne remplit pas toujours cet enjeu, vous l'avez dit, parce que il y a des cartes scolaires qui sont par quartier ou par ville ou par zone et qui ne remplit... Ça ne remplit pas toujours ce rôle-là, malheureusement.
On a beaucoup de questions. Je résume autour de l'encadrement. Tous ceux qui vont s'occuper de ces jeunes pendant la durée de ce service national universel. Il y a pas mal de parents qui s'inquiètent pour la sécurité de ces jeunes. Que pouvez-vous dire ce soir sur l'encadrement de ce service national universel, Madame Darrieussecq ?
Alors, l'encadrement sera un encadrement très... tout a été très bien structuré, puisqu'il y aura des maisonnées. Une maisonnée comportera 10 jeunes. Il y aura un encadrant pour 5 jeunes, hein, donc ils seront bien encadrés. Et il y aura des encadrants qui encadreront également ces maisonnées avec les référents de la maisonnée. Donc il y a des strates d'encadrement qui sont bien définies afin que d'abord les jeunes puissent être en parfaite sécurité, et puis aussi que les activités puissent se développer. Donc à l'heure actuelle, je comprends les parents. Je peux comprendre tout à fait l'inquiétude des parents. Je suis maman moi aussi, même si mes enfants sont bien plus grands. Je comprends les parents, mais il y a quand même beaucoup d'internats qui existent partout dans le pays. Ça existe dans de très nombreuses villes. Il y a des internats, notamment dans les zones rurales, puisque les jeunes sont obligés de se déplacer dans des internats pour pouvoir suivre leur scolarité.
À l'instant sur le site, ce courriel de Julia, on parle de mixité filles-garçons. Qui va garantir que tout se passe sera bien entre tous ces ados? Qui assurera la sécurité entre tous ces jeunes?
Eh bien, tous les encadrants qui seront là. Et la mixité dans les lycées actuellement, elle existe. Et il y a bien des internats dans les lycées. Il y a des internats des filles et des internats des garçons. Enfin, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre, là.
Beaucoup de réactions sur le site. Je vous lis les courriels. Michel, je souhaite exprimer mon opposition à cette militarisation rampante de la société. Qu'est-ce que c'est que cette société qui laisse ainsi aux militaires une porte d'entrée dans l'éducation? Ce n'est pas leur job. Michel Goya, ancien colonel, auteur du blog La Voix de l'Épée.
Ben, ça tombe bien, il n'y a rien de militaire. Mmh. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas du tout un service militaire. Et il faut espérer qu'il n'y ait pas de militaires qui soient impliqués là-dessus. Ils ont déjà bien pris par ailleurs plein d'autres missions. Vous parlez de ponction d'argent, mais c'est aussi un ponction en temps sur d'autres services publics. Donc oui, il faut espérer qu'il n'y ait pas de militaires. Mais on peut. Vous savez qu'il y a des pays d'Europe qui ont rétabli le service militaire. Hein. On aurait pu envisager cette hypothèse. C'était dans certains programmes de la campagne électorale. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, qu'ils se rassurent. Ce n'est pas un service militaire, ce n'est même pas un service national même du tout.
Geneviève Dariussecq ?
Écoutez, ce n'est pas un service militaire, c'est sûr. Mais les militaires ne peuvent pas se désintéresser de ce service national universel et ils ne s'en désintéressent pas. D'abord, nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait un module défense qui soit attractif et surtout un module défense qui est particulièrement important pour les armées, parce que je vous rappelle quand même que les armées ont besoin de 20 000 jeunes par an et que nous avons besoin de faire connaître nos armées, que nous avons besoin de faire connaître les différents métiers qui sont dans nos armées, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a que la journée défense citoyenneté qui fait cela. Et l'attractivité de nos armées, nous avons besoin de la porter également au travers ces modules défense afin de pouvoir donner de l'appétence, au moins de l'intérêt aux jeunes, pour ce que sont les armées et pour leur donner éventuellement envie de pousser la porte d'un CIRFA un jour. Donc je pense que ça, c'est un des enjeux importants. Et le deuxième enjeu, c'est quand même les armées ne se désintéressent pas des jeunes. Nous sommes dans le service militaire volontaire, nous sommes dans toutes les classes de défense et sécurité, dans les lycées et les collèges, nous sommes dans les cadets de la défense. Ce n'est pas anodin, les armées se sont toujours intéressés à la jeunesse et ont toujours été près des jeunes. Donc dans ce cadre-là, il y aura ce module défense, il y aura des encadrants, puisqu'il y a des appels à bonne volonté pour des anciens militaires ou des réservistes, et les armées participeront à leur niveau en formant les encadrants. Ils se sont engagés, les armées sont engagées à former les encadrants, à faire de la formation.
Michel Goya ?
Oui, alors comme vous l'avez rappelé, il y a quelque chose qui s'appelle le parcours citoyen qui existe, qui a été mis en place notamment au moment où justement le service militaire, enfin le service national a été suspendu pour donner un enseignement civique, pour donner un enseignement de défense. Donc tout ça existe déjà. Il suffisait éventuellement de le densifier. Maintenant que les militaires participent à cet enseignement ponctuellement, bien sûr, c'est une très bonne chose. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est du temps pris. Alors des réservistes, c'est pareil, et ce ne sont pas des gens inutiles, c'est des gens qui ont métier, civil, mais qui ont aussi une fonction militaire. Donc c'est pareil, on affaiblit, c'est du temps pris. Alors, considérer que c'est un investissement, hein, pourquoi pas. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre.
Vous, en tant qu'ancien colonel, vous avez envie de participer à l'encadrement de certains jeunes lors de ce service national universel ?
L'encadrement, non. L'enseignement, oui. Mmh. Ce que je fais d'ailleurs encore régulièrement à des adultes. Mais voilà, moi, le service militaire, je l'ai connu pendant 6 ans. Quoi. J'ai encadré des jeunes pendant de très longues années. Quoi.
Roland est avec nous. Roland se trouve à Orvault. Bonsoir Roland.
Bonsoir.
Orvault, dans quel département ?
44, Loire-Atlantique.
Ah pardon, Loire-Atlantique. Roland, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je voulais réagir. J'entends beaucoup de questions ou d'observations sur le fait de qu'est-ce qui se passe si on refuse. Et je suis assez surpris parce que 15 jours dans la vie d'un citoyen me paraît assez peu au regard de ce que peut apporter effectivement la nation, la République. Ça me paraît pas inutile pendant 15 jours de comprendre les rouages, de comprendre un peu ce qu'est une république, comment ça fonctionne, quels sont les devoirs et les droits. Et je trouve que c'est assez peu. Et par ces temps où on reproche souvent un manque d'engagement ou un manque d'appétence pour notre jeunesse, je pense que toutes les initiatives faites pour faire comprendre un petit peu les rouages de la République sont bons à prendre. Et voilà, j'étais assez favorable à cela.
Merci de nous avoir appelé, Roland. Un autre appel, je crois, favorable à ce service national universel, c'est Thomas qui est avec nous. Bonsoir, Thomas.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Oui, alors donc je vous appelle de Guyane française et en fait c'est notamment pour rappeler que il existe déjà en fait dans les DOM-TOM les RSMA, donc régiments du service militaire adapté, qui sont encadrés donc par le ministère de l'Outre-mer. Ce sont donc des encadrants donc volontaires qui ont en fait fait leur classe pendant 6 mois. Mais qui ont déjà en fait une formation professionnelle et qui sont destinés de partir dans les DOM-TOM pour encadrer justement des jeunes dans une nouvelle formation, un peu une école de la deuxième chance. Donc ça existe quand même depuis une quinzaine, je dirais presque une vingtaine d'années dans les départements d'outre-mer. Et l'ensemble est quand même assez positif pour une réinsertion sociale, donc pour tous les jeunes qui sont susceptibles de se présenter. Et donc moi je suis donc favorable pour que ce soit proposé au niveau national, mais aussi pour justement une orientation professionnelle pour chacun. Voilà.
Geneviève Darrieussecq, orientation professionnelle.
Le service militaire adapté, le SMA qui est dans les DOM-TOM et le service militaire volontaire qui est sur ici sont deux dispositifs d'insertion professionnelle. Essentiellement, avec un cadre militaire et encadré par des militaires. Ce sont de très très beaux dispositifs avec des taux d'insertion exceptionnels. Donc ça fonctionne très bien. Ce qui sera fait dans le service, alors c'est pas du tout la même échelle, là c'est 9 mois ou 1 an. Hein. Là nous sommes sur 2 semaines et après 2 semaines de mission d'intérêt général. Pendant ces 2 semaines... on parlera d'orientation et on essaiera de faire, je pense qu'il y aura des modules pour faire découvrir aux jeunes leur capacité, leur intérêt et peut-être leur capacité personnelle quelquefois aussi qui est insoupçonnée et que quelquefois dans des cadres différents de celui de l'école classique peuvent permettre d'éclore. Donc oui, il y aura un module orientation comme il y aura un module aussi de dépistage sur la santé et de travail sur la prévention, et comme il y aura un module également sur le dépistage des grandes difficultés, notamment de lecture ou d'apprentissage, ce qui se fait dans les journées défense citoyenneté, et qui nous permettra, ça nous permettra à 16 ans de pouvoir, après ce service national universel, proposer aux jeunes immédiatement des poursuites de formation très adaptées pour eux, ce qui évitera les décrocheurs scolaires de longue durée.
Je résume beaucoup de questions à propos du calendrier. Quand ce service universel sera-t-il généralisé ? Quelles sont les dates précises qui ont été mises au point ?
Alors, bon... il y a une montée en puissance qui était prévue dans le rapport du général Menaouine pour se faire jusqu'en 2026. Gabriel Attal souhaiterait que les choses aillent plus rapidement.
Notre collègue du gouvernement, je rappelle.
Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer et qui est en charge de ce service national universel. Je travaille avec lui sujets, mais c'est surtout lui qui développe ce service national universel. Et donc, souhaiterait que vers 2022-2023, nous puissions être déjà au maximum à 800 000 jeunes. Alors les choses vont se mettre en œuvre. Moi, je crois qu'il faut surtout voir comment les choses se passent dans cette préfiguration, la montée en charge que l'on est capable de faire dès l'année 2020, et ensuite... à quel rythme pouvons-nous former des encadrants ? Parce que c'est ça qui est le sujet majeur.
Michel Goya.
Oui, donc je voulais juste revenir sur l'auditeur précédent, qui effectivement, il y a des choses qui existent et qui marchent très bien. On parlait du service militaire adapté, service militaire volontaire, les EPID, des établissements professionnels d'insertion, de la défense, tout ça, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent remarquablement bien. Le service civique, c'est très bien. Il y a 80 000 réservistes. Et on revient encore une fois à cette question de financement. Avec ce 1,5 milliard, on pourrait doubler les capacités du service volontaire qui existe déjà. Les réservistes, c'est le service civique, le SMA, le SMV, tout. Au lieu de ça, on va l'investir sur un internat de 2 semaines. Et un enseignement qui pourrait être fait dans des établissements scolaires normaux.
Stéphane, ce sera le dernier appel. On a eu beaucoup de coups de téléphone au standard. Stéphane, c'est à vous.
Oui, bonsoir.
Vous vouliez poser une question ou faire une remarque à propos de ce futur service national universel. Allez-y.
Moi, c'était plus une remarque. Je fais partie de la réserve opérationnelle depuis 18 ans. Donc, mes respects, mon colonel. Et donc, je voulais dire simplement que je trouvais ce service, pour l'instant, très flou, avec des limites gauche et des limites droite. On ne sait pas trop exactement. Comme disait le colonel, que justement, à l'heure actuelle, il y avait un certain nombre d'outils mis en place, que ce soit la journée citoyenne, avec donc de l'information sur les armées, le secourisme, etc. Moi, je pense qu'il serait préférable peut-être de renforcer au niveau de la réserve les statuts, le mode de fonctionnement, ce genre de choses, que d'essayer de s'axer sur quelque chose qui, pour moi, ne va pas apporter grand-chose au niveau des jeunes à l'heure actuelle.
Geneviève Darrieussecq, c'est pour vous le mot de la fin, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
Non, mais je comprends tout, mais je crois qu'on ne peut pas comparer les choses. Et mon colonel, je vous entends quand vous dites que on pourrait multiplier par deux, mais multiplier par deux le service civique, ça ne fait pas 800 000 jeunes et ça ne fait pas tous les jeunes. Et vous aurez, il y aura plus de la moitié, voire trois quarts des jeunes qui n'auront pas eu ce moment. Donc voilà, je crois que c'est un mois, deux fois deux semaines. Deux semaines à l'hébergement et deux semaines de mission d'intérêt général. Pour moi, c'est un vrai sujet, un vrai projet de société et de cohésion nationale.
Merci à nos invités, Michel Goya, ancien colonel, et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était le téléphone sonne. À demain soir.